L'Éternel est mon berger. Émission proposée par John Graz à partir de son livre Fortifie-toi et prends courage.
L'image de Dieu comme berger est belle et rassurante, même si aujourd'hui nous avons perdu beaucoup de sa signification. Que peut-elle encore nous enseigner ? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, 1 à 4.
Petite histoire écrite par John Graz.
J'ai lu un jour que des alpinistes chrétiens avaient rencontré un jeune berger et son troupeau dans un alpage. La discussion s'est engagée et presque naturellement s'est orientée sur les merveilles de la création et l'amour du Créateur. L'un des alpinistes lui récita le psaume 23 et lui apprit à mémoriser les premiers mots « L'Éternel est mon berger » à l'aide des doigts de sa main gauche. Le pouce pour l'Éternel, l'index pour le verbe « est », le majeur pour « mon », l'annulaire pour « berger ». L'Éternel est mon berger. Quelque temps plus tard, on apprit qu'une avalanche avait emporté le jeune berger. Ceux qui retrouvèrent son corps furent surpris par un détail. Ils eurent du mal à l'expliquer. Sa main droite serrait le majeur de sa main gauche. Le doigt qui correspondait à « mon ». L'Éternel est mon berger. Pris dans la tourmente, le jeune homme avait trouvé son réconfort dans le psaume 23 et dans l'assurance que l'Éternel était son berger.
Écoutons maintenant le message de John Graz.
On ne sait pas exactement quand le psaume 23 a été écrit. Certains, comme le théologien William Barclay, pensent que David écrivit ce magnifique poème à l'époque de la révolte de son fils Absalom. Leur argumentation est que l'auteur semble bénéficier d'une expérience importante de la vie et du pouvoir, et une expérience qui ne correspond pas à celle d'un jeune berger. C'est John Graz qui vous parle, et je suis une fois de plus heureux de vous retrouver. David avait épousé Maaka, la sœur du roi de Geshu, et bien d'autres femmes pour des raisons politiques. De Maaka était né Absalom. Absalom avait une sœur, Tamar, une belle jeune fille. Son demi-frère Amon s'éprit d'elle. Il la désira avec passion et pour la posséder, il lui tendit un piège. Il l'attira dans sa chambre, prétextant qu'il était malade et qu'il avait besoin de sa présence. La jeune fille, n'imaginant pas ce qui l'attendait, lui apporta de la nourriture et non seulement Amnon la déshonora, mais ses sentiments changèrent du tout au tout. Il la rejeta avec mépris. Et à cette époque, une jeune fille, violée, était rejetée par tous, par la famille et par la société. Elle devenait un objet de honte et de malédiction. Ses chances de mariage étaient quasiment nulles, qu'elle soit princesse ou non. Elle n'était pas considérée comme une victime, mais comme une prostituée. David fut bouleversé et sans doute révolté quand il apprit la nouvelle, mais il ne prit aucune mesure contre son fils. Il ne fit rien pour protéger sa fille, ce qui nous donne déjà une idée du dysfonctionnement de la famille royale. Vous savez, lorsque l'autorité ne rend pas ou rend mal la justice, elle encourage la vengeance. C'est la justice populaire, la vendetta qui s'impose. Révolté, Absalom décida de venger sa sœur. Il invita son demi-frère à un banquet et il l'assassina. Justice est faite. Affaire réglée. Pas tout à fait. Chassé par son père, puis pardonné, le jeune prince Absalom revint à Jérusalem. Une fois dans la ville, il se mit à comploter contre le roi, contre son propre père. Il acquit une certaine popularité et il prit la tête d'une révolte armée. À Hébron, rapporte la Bible, les Israélites choisirent les rangs d'Absalom. David, le grand roi, est menacé. Il quitte Jérusalem en catastrophe pour le désert de Juda. Sa famille, ses fidèles l'accompagnent. Un repli stratégique qui le poussera à travers le Jourdain et à prendre position dans la ville principale de Galaad, Mahanaïm. Mais pour atteindre cette ville, il lui fallait traverser la vallée du Jourdain et surtout le Tsor. Jérémie l'appelle la jungle du Jourdain. Dans cette région, la végétation est intense, les fleurs atteignent très rapidement la hauteur des genoux et les herbes, celles des épaules. De grandes superficies sont recouvertes par un enchevêtrement d'épines, de lauriers et de branches. Alors pour les troupes du roi, la difficulté consistait à trouver un chemin dans la jungle en évitant d'être vu par les troupes d'Absalom qui devaient arriver par les collines. L'état spirituel de David à cette époque est guère brillant. Le jeune berger, sincère, généreux, fidèle à son Dieu, a bien vite laissé place au monarque tout-puissant. Il n'y avait plus de Goliath à combattre, plus de Saül à fuir, plus de troupeaux à protéger contre la patte de l'ours et la griffe du lion. Il avait à disposition des femmes, des concubines, des serviteurs, des soldats. Par conséquent, il n'était plus nécessaire d'appeler Dieu au secours. Il était devenu riche et tout-puissant, mais sa vie spirituelle s'était considérablement appauvrie. En 20 années, il n'écrivit qu'un psaume, celui de la repentance, après son affaire avec Bethsabée, et le quasi-crime de son mari, le brave Uri le Hittite. Ce psaume, il ne l'aurait probablement jamais écrit sans l'intervention de Nathan, le prophète. Les années passent, et avec leur joie, avec leur peine, maintenant le roi a vieilli, il aurait sans doute rêvé à une vie tranquille avec sa nombreuse famille, et la paix pour son peuple. Et au lieu de cela, il fuit son fils Absalom. Il fuit Jérusalem, son palais, sa cour, ses femmes, ses concubines. Tout ce qui faisait son prestige ne lui sert désormais à rien, sinon qu'à retarder sa fuite. Il se retrouve dans la nature sauvage, ce qui va lui rappeler sa jeunesse. Les souvenirs des jeunes années, c'est souvent ce qui nous reste de plus précieux quand les jours sont comptés. Le roi vieillit, il est en fuite, il se souvient du jeune berger. Il se souvient de ses premières expériences spirituelles, de ses prières, des poèmes qu'il écrivit en l'honneur de son Dieu. À l'époque, il n'avait ni serviteur ni soldat pour le protéger, mais Dieu répondait à ses besoins. Dieu était sa force et son secours. Le psaume 121 fait référence à une situation semblable. Il écrit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Le secours me vient de l'Éternel, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. David se revoit jeune berger, protégeant ses brebis sans défense. Il se souvient de l'amour qu'il portait à chacune d'elles, mais aussi aux agneaux et à tout le troupeau. Il les connaissait par leur nom, il les appelait, les guidait, elles reconnaissaient sa voix. Maintenant, il s'en remet à Dieu, son berger. Il ne désire qu'une chose, être une brebis dans le troupeau du Seigneur. Je l'imagine là, fatigué, transpirant abondamment car il fait très chaud dans la vallée du Jourdain. Il n'a plus les capacités physiques de jadis. A-t-il encore un avenir ? Désire-t-il encore jouer un rôle dans l'histoire de son peuple ? Sa boîte à découragement est pleine. Mais soudain, l'image du berger s'impose. Il se ressaisit et dit « L'Éternel est mon berger ». Il est le premier qui, dans la Bible, appelle Dieu son berger. L'Éternel est mon berger. Appeler Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, son berger, n'est-ce pas le diminuer ? N'est-ce pas par cet anthropomorphisme rabaisser la grandeur de Dieu ? Un berger n'a rien à voir avec l'Éternel. Celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours et se reposer le 7e, celui devant lequel Pharaon a dû capituler, devant lequel la mer Rouge s'est ouverte pour laisser passer son peuple, celui qui a donné les 10 commandements au milieu des éclairs et du tonnerre, celui qui a ressuscité Jésus. Hé, David, connaissait le Tout-Puissant, l'Éternel, sa relation avec lui était si proche qu'il a toujours su que Dieu est le bon berger, un Dieu personnel, un Dieu avec qui on parle, avec qui on se confie, contre qui on se révolte parfois. En devenant son berger, le Dieu de David devient mon Dieu. Lorsqu'il agonise sur la croix, Jésus n'appelle plus Dieu son Père, mais Abba, qui signifie Papa. L'Éternel devient le berger, le Père devient le Papa. Il est parfois surprenant de constater que dans les moments très difficiles, les hommes et les femmes appellent leur maman. Parfois, ils se demandent ce que leur père ferait à leur place. L'être humain, quelle que soit sa position dans ces moments, se replie sur lui-même et retrouve son enfance. Il éprouve ce besoin d'affection, de chaleur, d'amour, que seul un papa et une maman peuvent donner. L'Éternel est mon berger. Le mot berger est en soi important, mais ce qui le rend essentiel, c'est le pronom possessif, mon, celui de David, mais aussi le mien, le vôtre. Alors, quelle que soit notre situation, notre condition, riche, pauvre, malade, en bonne santé, chacun de nous peut dire « L'Éternel est mon berger. »
Vous écoutez une émission proposée par John Graz à partir de son livre « Fortifie-toi et prends courage ».
Mais qu'est-ce qu'un berger ? On sait encore ce qu'est un papa, une maman, mais on ne sait plus très bien ce qu'est un berger. Sinon, quelqu'un qui garde les vaches ou les moutons, un être sans grande culture, renfermé, solitaire, pour tout dire, presque un marginal. À l'époque de Jésus, les citadins avaient les mêmes préjugés qu'aujourd'hui. À l'époque de David, dans une économie rurale, les bergers faisaient partie du paysage, mais ils étaient tout en bas de l'échelle sociale. Par contre, David, qui était l'un d'eux, avait une toute autre appréciation. Il savait que pour bien exercer sa tâche, le berger devait être fort physiquement, intelligent, courageux et sensible. Comment se passait la journée du berger ? Dès l'aube, le berger se dirigeait vers l'enclos, où les troupeaux étaient réunis pour la nuit, et son premier soin était de rassembler ses brebis. Il y avait plusieurs bergers, et chacun appelait ses brebis. Chacune portait un nom donné en rapport avec sa taille, son pelage, son caractère. Les brebis entendaient et reconnaissaient la voix de leur berger, la bonne voix. Et rapidement, le troupeau se formait autour du berger. Jésus va reprendre cette image et il se compare au bon berger. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors, écrit Jean dans son Évangile, chapitre 10, verset 3. L'Éternel est mon berger. C'est-à-dire, il me connaît. Il sait qui je suis, grand ou petit. Il connaît mes faiblesses. Il m'appelle par mon nom. Et je reconnais sa voix. Pour l'Éternel, nous ne sommes pas un numéro perdu dans la foule. Nous ne sommes pas un parmi les 2 milliards de chrétiens, mais nous sommes Annie, Gérard, Jean-Marie, Pierre, Paul, Odette. Chaque âme est l'objet de la part de Jésus d'une connaissance aussi complète que si elle était la seule pour laquelle le Sauveur soit mort. Son cœur est touché par les misères de chacun. Il entend tous les appels de détresse. Il prend soin de chacune d'elles comme s'il n'en avait point d'autre sur la surface de la terre. C'est une citation que j'emprunte à l'auteur Ellen White. Le berger va prendre la tête du troupeau. Une fois que le troupeau est rassemblé, le berger ne pousse pas ses brebis en avant et les suit de loin. Il n'utilise ni la force ni la crainte, mais il les conduit en marchant devant. Il prend la tête du troupeau. Il ne cesse de les appeler, ses brebis, jusqu'à ce qu'ils arrivent au pâturage. Lorsque David écrit « L'Éternel est mon berger », il se compare à une brebis. Il sait que sa nourriture, sa protection dépendent de lui. Il se sent totalement dépendant à l'égard de Dieu qu'il a choisi de suivre en toute liberté. Jésus est notre berger. Cela signifie qu'il ne nous oblige pas à le suivre. Nous le suivons parce que nous avons entendu et nous continuons d'entendre sa voix. Par amour, nous décidons de le suivre. Le berger sait que ses brebis ont faim. Il les conduit dans le meilleur des pâturages et au milieu de la journée, il sait qu'elles ont soif. Il les mène à l'abreuvoir, qui le plus souvent était un puits recouvert par une grosse pierre, pour éviter évidemment l'empoisonnement de l'eau. Et à la tombée de la nuit, ayant à nouveau rassemblé son troupeau, le berger les ramène au gîte, portant dans ses bras l'agneau fatigué ou autour de son cou la brebis malade. Arrivé à la bergerie, il compte son troupeau et s'il manque une brebis, il part aussitôt à sa recherche. Le travail du berger n'était pas facile. Jacob le décrit bien lorsqu'il dit « Le hâle me consumait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait mes yeux. » Ce travail pouvait être même dangereux. Il fallait compter avec les ennemis de toutes sortes. Il y avait des pillards qui voulaient s'emparer du troupeau. Et dans les gorges et dans les fourrés se cachaient des fauves, le loup, le chacal, l'ours, la panthère, le lion, qui pouvaient surgir à l'improviste. Face au danger, le berger se servait de son bâton pour défendre ses brebis. Il utilisait sa houlette pour les guider, pour les compter. Et pendant la journée, il ne s'endormait pas à l'ombre d'un arbre, en attendant la nuit, tranquillement. Non, il se tenait sur un monticule ou sur une hauteur ou dans une tour pour surveiller son troupeau. En écrivant ce très beau psaume, le psaume 23, David exprime sa foi en un Dieu d'amour qui prend soin de lui et de nous, comme le bon berger prend soin de ses brebis. Le Dieu de la Bible est le Tout-Puissant, l'Éternel, le Créateur, le Dieu qui écrase l'ennemi, mais pour le croyant blessé, désespéré, pour David vieilli et en fuite, bouleversé par la révolte de son fils, Dieu redevient ce qu'il n'a jamais et ne cessera jamais d'être pour chacun de nous, le bon berger.
Pour être pratique.
Et maintenant, pour être pratique, premier point. Tous les matins, en me levant, en posant le pied sur le sol, je marque un temps d'arrêt, je respire et je dis les premiers mots du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Deuxième point, lorsque je ferai face à des moments difficiles comme la déception, la souffrance, la peur, je murmurerai « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et puis troisième point, le soir, après une journée bien remplie, avant de me coucher, j'affirmerai ma confiance en Dieu par ces mots. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice.
Cette émission vous était proposée par John Graz. Retrouvez le contenu de toute la série dans son livre « Fortifie-toi et prends courage ».